Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réuni. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Et ben c'est parti.
Allez.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui avec Émilie Albertini. Salut Émilie.
Salut Adrien.
Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ?
Oui, bonjour, je m'appelle Émilie Albertini. Voilà, tu veux que je développe ?
Non, c'est très bien. Émilie, est-ce que tu pourrais peut-être expliquer ce que tu fais dans la vie ? Et surtout, ma deuxième question en général, c'est est-ce que tu peux reprendre ton parcours depuis ta plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui ?
Jour après jour, tu sais que j'ai un certain âge, donc j'espère que tu as prévu ton lundi de Pâques dans son intégralité. Alors en gros, ce que je fais aujourd'hui, j'ai lancé depuis l'année dernière, après le premier lockdown le plus sérieux d'entre tous, un concept qui s'appelle The Dressing Therapy, qui consiste en des masterclass sur Zoom en direct et aussi en replay. Où pendant 1, 2, 3, 4 heures parfois, mais ça passe très vite, je promets, accompagné d'un énorme document que j'appelle le e-book et que j'ai préparé en amont, je commente et je donne des conseils de mode, de stylisme, de shopping, avec toujours pour fil conducteur, arrêter d'acheter toutes ces fringues. Ce qui peut sembler paradoxal, mais c'est complètement le fondement de ma méthode. Sans repartir dans les années 60, hein, où je suis née, n'est-ce pas ? Pendant des années, j'ai fait des émissions de relooking à la télé. Pendant des années, j'ai contribué bien malgré moi, parce que j'étais déjà à l'époque pas d'accord avec ça. J'ai contribué à, aux idées reçues de silhouettes, de formes en X, en Y, en W.
Ça, tu crois plus du tout à ça ?
J'ai jamais cru.
D'accord.
Mais à l'époque, sur M6... on nous demandait d'étayer nos arguments. Et en fait, moi, c'était simplement du feeling, du ressenti par rapport à la femme que j'avais en face de moi. J'avais jamais la méthode écrite en face précise. Il y a autant de corps de femmes qu'il y a de femmes sur Terre. Tu peux en effet appartenir à une morphologie en, je sais même pas en quoi d'ailleurs, mais genre on va dire en 8, parce que c'est celle qui pour moi me parle le plus. J'imagine que
t'as
c'est
la taille fine,
la taille fine, etc. Mais combien tu mesures, combien tu pèses avec cette silhouette en 8, est-ce que c'est plus d'épaules et moins de hanches ou l'inverse, comment sont tes jambes, est-ce que t'as le ventre plat, c'est ridicule en fait, ça ne veut rien dire. Et aujourd'hui je m'en rends compte, les femmes elles sont vachement encore imprégnées de ces idées-là, pas plus de 3 couleurs, etc. Ce qui les empêche finalement de composer avec ce qu'elles ont déjà dans leur garde-robe, parce qu'elles cherchent toujours la pièce ultime qui leur manquerait, celle qui ferait que bah du coup elles porteraient pas plus de 3 couleurs ou ça irait avec leur silhouette en Z ou que sais-je. J'ai une approche très intuitive, très friendly, très normale entre guillemets de la mode et du conseil en stylisme.
Trop bien.
J'espère.
On va creuser tout ça, mais moi j'aimerais quand même que tu reviennes un tout petit peu sur ton parcours, parce
oui.
que tu l'as été passé vraiment très très vite sur le sujet, mais tu es né en Corse quand même,
oui.
il faut le dire. T'es une petite provinciale comme moi.
Carrément, et... pire que provinciale, sur une île, t'imagines. J'ai là vraiment les infos avant qu'elle traverse la Méditerranée. On avait 6 mois de retard sur tout le monde. Donc,
ça veut dire quoi, naître en Corse et grandir en Corse ?
De quel point de vue ? Parce que ça veut dire plein de choses.
D'un point de vue,
alors,
comment ça t'a construit, quoi ? Qu'est-ce qui fait que t'es Corse aujourd'hui, ou plus Corse, ou est-ce que t'as encore de la Corse en toi ?
Je pense que je suis 100% Corse,
ouais.
Parce que c'est une éducation, c'est un mode de vie, c'est une île qui est tellement particulière, qui est tellement à part.
Ouais.
au sein de la France, mais de l'Europe, mais du monde entier. C'est vraiment une île tourmentée, torturée, compliquée. Il y a la carte postale, bien sûr, mais il y a un climat... on grandit dans un climat de violence, d'assassinat. C'est pas des blagues, hein. Je veux dire,
c'est vraiment pas... comme ça. Ça se passe vraiment comme ça.
Ah si, ça se passe vraiment comme ça. Je veux dire, moi, quand j'ai vu Gomorra, la série, qui parle de la mafia napolitaine. Après, c'est évidemment c'est romancé, c'est exagéré. Mais moi, j'ai perdu beaucoup d'amis, j'ai perdu de la famille, j'ai des gens de mon âge qui ont été assassinés à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans. Je te raconte même pas parce que les gens pensent que, enfin, c'est tellement surréaliste, mais c'est la vérité. On grandit dans un climat de violence. On est une île avec des routes dangereuses. Il y a des accidents de voiture. On perd des amis. Enfin, on dirait que tout est tout le temps tourmenté. Donc voilà, ça déjà, ça, je pense que ça rend les gens très forts, très endurants par rapport à l'adversité. Et ça, c'est pour la partie qui plombe l'ambiance. Hein, vu le temps qu'il fait, je me suis dit, j'avais envie de te faire un peu rêver. Pour la partie un peu plus sympathique, je pense honnêtement que... Alors, il ne faut jamais faire de généralité. Je ne peux pas dire que 100% des Corses sont comme ça. Mais il y a une espèce d'honnêteté et de fierté qui nous empêche un peu de prendre les gens pour des cons. Et moi, je m'y attache. C'est la raison pour laquelle je refuse... Pourtant, je sais bien que d'une manière détournée, je dois être un peu influenceuse, mais j'aime pas trop cette étiquette parce que pour moi, peut-être à tort, hein, il y a un côté, on prend les gens pour des cons. Un matin, je te dis que ça, c'est génial. Le lendemain, j'essaye d'être le plus intègre possible parfois.
Comment on l'est dans cette industrie ?
Oh ben, on l'est comme je le suis. C'est-à-dire qu'on refuse.
Tu refuses.
Voilà, ouais. On refuse. On me dit non, c'est pas mon style. Après, j'aime pas trop le mot cash parce que j'ai toujours l'impression que ça manque de tact d'être cash. On n'est pas cash. J'ai quelqu'un qui travaille avec moi qui s'appelle Carmel. On reste poli. On essaye de se démarquer de tout ce lot par la gentillesse, la politesse et des valeurs que les gens ne partagent plus. C'est peut-être un peu old school, mais voilà, nous, quand on a un partenariat, parce qu'on travaille avec une marque sur une masterclass, etc., on fait les choses bien. On le fait quand on nous a demandé de le faire, on le fait correctement. On donne des nouvelles, voilà.
Vous êtes des gens sérieux.
On est des gens intègres.
Ouais. Et pourquoi quitter cette île ? La Corse.
Alors moi, j'en pouvais plus très tôt. En fait, c'est une île, la ville où j'ai grandi, qui est Bastia. Et moi, j'étais dans le Cap Corse. On est tourné vers la mer. On a la montagne derrière nous. C'est comme si elle nous poussait vers la mer. C'est pour ça qu'on est aussi un peuple de marins, de gens qui... Il y a des Corses dans le monde entier. Il y a une très grosse diaspora, notamment aux États-Unis, etc. On est des gens à la fois très attachés à notre terre et prêts à partir. Donc moi, dès le plus jeune âge, pour mille raisons, et surtout peut-être des raisons d'anonymat à l'époque, j'avais vraiment envie de sortir de cette petite ville où tout le monde se connaît, tout le monde parle sur tout le monde. Voilà, j'avais vraiment une passion pour Paris parce que j'avais eu l'occasion de venir très régulièrement plus jeune et que c'était... pour moi, c'était vraiment là où j'avais envie d'être. Donc, si on m'avait dit en seconde, tu pars en pension, j'aurais été ravie. Donc, autant te dire que le bac, je l'ai eu vite fait, bien fait.
Et après, Taillot.
Ouais.
T'es arrivée à Paris tout de suite ?
Tout de suite.
Et t'as fait quoi alors à Paris ?
Alors, je me suis inscrite à la fac d'espagnol. Je voulais être prof d'espagnol. Écoute, qu'est-ce que tu veux ? C'est bien la preuve qu'on peut être mal orienté ou mal... voilà, j'adorais. J'avais une passion pour l'Espagne que j'ai toujours. J'avais une passion donc pour le monde hispanophone, l'Amérique latine, tout ça. Donc, j'ai toujours adoré. Je voulais être prof. Autant te dire que je suis arrivée à Paris après une éducation assez sévère. Je crois que j'ai pas vu le jour pendant très longtemps.
T'as lâché les chevaux.
Ouais, comme on dit. Autant te dire que vraiment, je connaissais pas mal d'endroits de nuit. Donc, j'ai bien fait le tour de la night, hein, comme on dit. Ça a duré des années d'ailleurs. Je sais même pas comment j'ai eu mes années à l'arrache. Et puis, un jour, je passe dans un couloir. J'avais ma meilleure amie qui végétait en lettres modernes. Moi, en espagnol. Tu sais, c'était il y a plus de 20 ans. C'est vraiment à l'ancienne, en fait. Il fallait aller à la fac. On n'était même pas très au courant des écoles.
Bien sûr.
Moi, j'étais paumée dans cette fac à Sancier où les gens ne me ressemblaient absolument pas. C'était que des cracheurs de feu. C'était une fac de ciné. Moi, j'étais une cagole au milieu de tout ça. Enfin, les gens me regardaient. J'étais et trop bien habillée et trop maquillée à l'époque pour, je sais pas, il roulait des cigarettes. Enfin, moi, j'étais au zoo, tu vois. Et à la fois, c'était super parce que tu rigoles, t'as été associé.
Non, non, pas du tout. Mais j'imagine le tableau parce que tu en parles tellement bien. Je trouve ça assez cool.
Ah ouais, ouais, c'était un subtil. Mais je sais pas, une fois, je rentrais dans un couloir, il y avait écrit le TD de clown a été reporté à lundi. Mais quoi, un TD de clown? Il y avait vraiment des TD de clown. Non, mais je te jure, c'est une fac de cracheurs de feu. Et au-delà de ça, ils avaient même démantelé un réseau de trafic d'ecstasy avec une banlieue et tout. Non, c'était épique. Donc moi, j'étais larguée là. Un matin sur deux, j'étais en gueule de bois, mon pote. Je savais même plus où j'habitais. J'avais pas le niveau. J'ai eu 18 au bac en espagnol. Donc, mais... passer en Corse, bon, voilà, tu vois, t'arrives, tu te heurtes et au niveau, parce que c'était quand même une très bonne fac de langue, et au niveau national, et surtout, j'avais, ce que j'ai jamais compris, il y avait beaucoup d'Espagnols, de langue maternelle espagnole, qui faisaient des études d'Espagnol. C'est comme si moi, j'avais fait français en Espagne.
Ouais, ça n'a aucun sens. Ouais.
Aucun sens. Donc moi, à côté, j'étais complètement pénalisée parce que j'avais pas le niveau, j'étais pas, tu vois, de langue maternelle espagnole. Bon, je reste 3 heures là-dessus. Enfin, 15 jours, j'arrive dans un couloir et je tombe sur une espèce d'UFR. À l'époque, ça s'appelait UFR, je sais pas si ça s'appelle encore comme ça, d'études européennes. Et là, je vois les notes affichées et je vois que des bonnes notes. Je dis, c'est incroyable. J'appelle ma meilleure pote qui végétait en lettres modernes. Je dis, écoute, il faut qu'on s'inscrive absolument là. Il n'y a que des bonnes notes. Ça nous permettra d'avoir un DESS easy. Donc, c'est complètement ce qu'on a fait. Et c'est complètement le truc qu'on a eu easy. Donc, ça m'a permis de boucler mes études, à faire une espèce de sombre parcours d'histoire européenne. J'ai toujours pas compris très bien à quoi ça servait. Mais en tout cas, voilà. Et parallèlement à ça, j'ai commencé à faire des stages, en fait, en presse écrite, en PQR. À Ouest France. Donc parallèlement à ces études un peu tirées par les cheveux, je commence à faire des stages parce que je me rends compte que c'est du journalisme que je veux faire.
Ouais.
Donc presse quotidienne régionale, radio régionale, chez moi en Corse, à Montpellier. Et puis jusqu'à un stage, j'ai fait Mireille Dumas. Enfin, j'ai fait plein de petits stages comme ça en parallèle de mes études.
Mireille Dumas, c'était quoi?
Mireille Dumas, tu sais pas qui c'est?
Non.
Oh, la pauvre. Fait de la peine pour elle, elle était hyper connue. C'était, tu sais, une intervieweuse de France 3 avec des cheveux frisés, hyper connue. D'accord. Qui faisait, bon, voilà.
Bon, elle était très connue, c'est... en tout cas à l'époque.
Allez.
Non, mais ça me parle de
je t'en supplie.
Ça me parle.
Je vais te montrer une photo. Elle est assez connue et en fait, à l'époque, en tout cas dans le milieu, c'était assez formateur parce que c'était des émissions de témoignages, c'était des émissions très longues avec des sujets, etc. Donc,
et ton job, c'était quoi de faire de chez
moi? J'étais stagiaire en fait. Stagiaire,
donc tu préparais des.
Je préparais les émissions, les dossiers, j'assistais au tournage de l'émission. Vraiment stagiaire, tu vois, j'ai fait mes premiers pas en montage, vraiment voilà. Et puis, je fais une candidature spontanée, ma dernière année de DESS. Entre-temps, je passe les concours de journalisme. Bon, je ne les ai pas pour mille raisons. Et je me dis, bon, en fait, je vais, pour faire ce que j'ai envie de faire, je ne veux pas être journaliste au Monde, à l'inverse de mon frère, qui est, lui, journaliste au Monde, pour le coup. Je vais passer par la voie débrouille. J'ai multiplié les stages. Et okay. De toute façon, voilà.
Il n'y a pas trop de secrets.
Il n'y a pas de secrets. C'était, en tout cas, à l'époque, c'était vraiment comme ça. Je fais ce stage à Canal, une émission produite par Jean-Luc Delarue, qui passait entre midi et deux. Et je me fais repérer, en fait, parce que j'aimais bien les fringues, j'aimais bien la mode. Et il y a une nana qui sera par la suite ma rédactrice en chef, qui, avec qui je dîne un soir, qui fait partie plus ou moins de cette rédaction, et qui me dit, écoute, à la rentrée, on me propose la rédaction en chef d'une émission de mode qui s'appelle l'Atelier de la mode. On a besoin d'une chroniqueuse pour faire des petites chroniques, genre des petits looks à moins de 100 euros. La mode a un peu débrouille. Je dis, ok, bon, rien à voir, je veux pas du tout faire d'antenne. J'y avais même jamais pensé. Mais à ce moment-là, mon stage s'est arrêté, mon DESS est terminé, il faut que je trouve du taf. Donc, je passe le casting et je suis prise.
Et ça ressemble à quoi un casting d'ailleurs?
Et ben écoute, dans mes souvenirs, j'avais préparé une petite chronique, je m'en souviens très bien. Si tu veux que je te dise, j'avais copié un look Chloé avec un grand pantalon pied de poule. Dans les tons de marron clair et marron foncé, des espèces de sandales en bois, une grosse ceinture nœud en velours avec un t-shirt blanc oversize. Et ben, quand j'y repense, je pourrais complètement porter encore ce look aujourd'hui.
Okay.
Et je l'avais copié en mode petit prix à l'époque, Zara, H&M, c'était la folie. Donc voilà comment on reproduit le look de l'invité. À moindre frais, et j'arrive, on me maquille, je me souviens plus très bien, tu vois, c'était en 2004, ça commence à remonter, et puis et j'y vais, et je sais même pas dans quel état d'esprit j'étais, en fait, j'étais pas du tout fascinée par la mode, j'aimais les fringues, tu vois, mais je... Voilà, c'était avec Virginie Mouza, tu vois, qui aujourd'hui s'occupe du Vanity Fair, mais j'ai fait mon truc...
Et ça a marché. Et tu fais ça pendant combien de temps, alors ?
Je fais ça pendant 2-3 ans.
Ouais. Et c'est quelque chose de très formateur, non, le fait de passer en antenne aussi régulièrement.
Bah, disons que tu vois, aujourd'hui, ça me sert complètement à animer 4 heures de masterclass.
Sans problème, ouais.
Parce que j'ai fait de l'antenne, parce que quand tu fais de l'antenne, quand tu es en train de parler, tu as toujours la petite seconde d'avance sur ce que tu es en train de dire. Tu vois, c'est tout un exercice, en fait. C'est pas, tu déballes pas tout sans réfléchir, donc ça apprend à structurer ta pensée, à savoir où tu veux en venir, à capter l'attention de ton audience, ouais. Tu vois. Après, moi, j'avais une toute petite chronique à la fin, c'était assez court, c'était ludique, en fait, c'était une émission qui, après coup, était un peu plombante, un peu mode, des
modeste,
vraies questions,
ouais.
Tu vois, en plateau, et moi, en fait, j'arrive... avec des fringues, avec des looks.
C'était un peu rafraîchissant.
Voilà. Et en fait, j'ai une espèce de fanbase qui s'est construite à ce moment-là. C'était le tout début des blogs. Et quand j'ai arrêté, pour des raisons personnelles, parce que je trouvais que l'émission avait décliné, je me sentais plus très à l'aise à la faire. On avait changé d'animatrice, les invités, c'était plus exactement la même chose. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais vachement de soutien sur les blogs que je connaissais pas. Et après, j'ai été repérée par M6 et ainsi de suite. Et j'ai toujours fait de l'antenne en étant repérée par... Bon, après, quand t'es un peu connu, entre guillemets, dans ce milieu, tu passes plus trop de casting, tu vois.
Ouais.
On t'appelle, quoi.
Ouais. Et donc, alors, c'est quoi la suite de ça ?
La suite, c'est que M6 me propose de faire une émission de relooking le samedi matin, l'année d'après que j'arrête l'atelier de la mode. Moi, en parallèle, c'est important de savoir que, ayant conscience dès le début que cette histoire d'antenne n'allait pas durer éternellement, au final, elle a duré presque 20 ans, j'ai appris le métier de journaliste. Donc, le montage, le tournage, faire des sujets, etc. C'était très important pour moi. Si bien que, parallèlement, quand je te raconte ça, j'ai réalisé des sujets pour Paris Première avec Alexandra Golovanov, et puis après, pour Loïc Prigent, j'écrivais, tu vois, donc, de toute façon, parce que l'antenne, en plus, t'as pas du boulot tout le temps. Et quand j'avais pas de boulot, bah, il fallait bien que je fasse mes heures d'intermittente. Donc, j'ai réalisé beaucoup de sujets jusqu'à faire ensuite des trucs de télé-réalité, tu vois. Parce que je recherche appartement ou maison. Enfin, après, j'étais complètement...
T'étais assez généraliste, finalement.
Oui. Et puis, j'étais chef d'édition, JRI, Réal, de plein d'émissions différentes, comme tous mes potes de téléphone, quoi, tu vois. Après, moi, j'avais une spécialisation en mode, mais en mode, il y a très peu d'émissions. Le peu d'émissions qu'il y a, c'est soit extrêmement populaire, soit extrêmement pointu. Il n'y a pas un entre-deux. Donc, quand je dis populaire, c'est Christina Cordula qui a été ma co-présentatrice pendant des années, puisque moi aussi, j'ai fait Nouveau Look pour une nouvelle vie. Mais aujourd'hui, ça s'est transformé en les reines du shopping, etc. Et puis après, tu as du Prigent qui maintenant est quasiment même plus diffusé et qui fait sa propre chaîne YouTube. Et là, pour le coup, ça s'adresse à un public averti de professionnels de la mode qui comprennent et qui aiment ça. Aujourd'hui, une vraie émission... populaire sans le côté péjoratif du terme, mais qui intéresse tout le monde, où on parlerait de mode de façon décomplexée, sympa, sans que ce soit trop pointu, sans que ce soit trop non plus vulgaire au sens vulgarisation de l'information, ça n'existe pas. Et parce que ça intéresse pas, en fait, c'est
ça
compliqué, la mode. Non, puis ça intéresse qu'une c'est une niche, et dans cette, alors à côté de ça, il y a des émissions de bagnoles, des trucs de foot et tout qui n'intéressent pas tout le monde. La mode, il y a un côté,
pourtant tout le monde s'habille, et toutes les femmes s'habillent,
mais tous les hommes s'habillent,
tout le monde s'habille.
Vois, mais je pense qu'ils n'ont pas encore trouvé la formule, et moi non plus je l'ai pas trouvé, tu vois. Donc,
quel regard
voilà.
Tu portes aujourd'hui sur la télé, c'est la fin de ce média, c'est... parce que t'as vécu un peu quand même l'apogée de la télé, et finalement avec l'arrivée d'internet, de YouTube, etc., ça s'est un petit peu effrité, tout ça.
Écoute, te dire que j'ai vécu l'apogée, c'était pas non plus Champs-Élysées dans les années 80, mais en tout cas, ça faisait foi. Quand tu disais je bosse à la télé, ça faisait foi. Aujourd'hui, tu vois un produit avec écrit vu à la télé, moi, c'est limite si je me dis bon, bah, ok, c'est de la merde, faut pas l'acheter alors. Tu vois, ça fait genre téléachat. Moi, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est quand je faisais des primes sur M6, ça se voyait dans la rue. Je
on pense se retournait
que
sur toi.
Ah ouais, bah, laisse tomber. Je pense que c'était vraiment. Là, oui, à ce moment-là, c'était très regardé. Il y avait des millions de téléspectateurs. Je peux te dire que du M6, tu veux pas me relooker ? J'en ai bouffé, mais des années et des années. Je n'avais pas de prénom, je n'avais pas d'identité. J'étais M6. Donc un peu compliqué certains jours à gérer, mais ça va. Franchement, j'avais pas. J'étais pas. C'était pas une télé-réalité. J'avais pas une mauvaise. Image, donc c'était que positif, même si, voilà, M6 s'arrangeait toujours pour faire des montages un peu plus sensationnels qu'ils ne l'étaient en vrai. Donc on te fait dire une vacherie, on coupe quand elle est contrebalancée par une gentillesse, tu vois, il faut que ce soit du spectacle. Le regard que je porte aujourd'hui, moi personnellement, c'est que je ne regarde pas la télé, ça ne m'intéresse pas. Du tout, à part vraiment, mais alors là, je pense que c'est dû à l'âge, mais un Déraciné des ailes ou les émissions de Stéphane Bern, parfois je me retrouve à regarder des trucs sur Versailles et tout. En fait, je ne regarde la télé que quand elle a du sens, c'est-à-dire, je parle d'émissions, hein, je ne parle pas de films, ni de séries, ni quoi que ce soit, mais en termes de divertissement, si j'apprends rien, il n'y a rien qui me divertit, sauf Selling Sunset, mais ça c'est sur Netflix, mais c'est autre chose. Ce sont des bitches américaines qui vendent des baraques de plusieurs millions de dollars. Ça, j'avoue que je suis assez addict. Mais ça n'a rien à voir avec la télé d'aujourd'hui, tu vois. C'est, voilà, c'est les Américains. Donc, moi, le regard que je porte sur la télé, c'est que je n'en ferai plus dans les conditions dans lesquelles je l'ai faite. Si j'en refais, c'est vraiment parce que c'est soit un super projet, soit un truc chouette, différent, novateur. Sinon, ça ne m'intéresse absolument pas. J'en ai rien à cirer.
Et donc, 20 ans de carrière à la télé.
Oh, arrête, j'ai c'est l'impression ça, hein. d'avoir 1200 ans.
20 ans de carrière à la télé. Et après.
T'as raison.
Ouais, c'est ça,
mon
c'est 20 ans.
Mon premier stage, c'était en 2001.
2001, on est en 2021. Voilà, 20 ans après, qu'est-ce qui s'est passé ?
Dans ma vie ?
Ouais, dans ta vie. Parce que 20 ans de télé, on quitte pas la télé. Enfin, on quitte la télé. Pourquoi est-ce qu'on quitte la télé ? Je pense que la télé, ça ferait beaucoup de gens. Moi, j'adorais faire de la télé, tu vois.
Mais arrête.
Je te jure.
C'est tellement chiant. Mais quelle angoisse.
Non, mais je pense qu'il y a c'est comme peut-être la radio serait peut-être plus sexy aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, moi, je fais de la radio avec le podcast. Mais cette idée d'être en prime time, etc., il y a un côté hyper jubilatoire.
Mais quelle angoisse. Mais pas du tout.
Non.
T'as envie d'être reconnu dans la rue, que les gens te jugent. Mais moi, quand j'ai fait de la télé, en plus, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, mais laisse tomber. Tu
ouais,
fais un écart, un truc.
Et
puis
défoncer.
En plus, mais tu te fais défoncer. Mais moi, j'ai pas du tout envie. J'ai ouais. pas ce temps-là. J'ai pas cette énergie. Et puis, ça m'atteindrait.
Et t'as plus cet égo.
Mais je l'ai jamais
eu. Tu l'as jamais eu, d'ailleurs.
Mais je l'ai jamais eu. Mais moi, au contraire, j'étais presque gênée de... En fait, quand tu fais de la télé, surtout quand c'est pas en direct et que t'as pas de public... Donc, tu vois que ce sont des émissions enregistrées. Tu te rends pas compte. En fait, toi, t'es avec tes potes, cadreurs, les techos et tout. Tu rigoles. Tu fais ton contenu que t'as préparé dans une rédaction pendant des semaines avant. Tu tournes et même limite, tu oublies que t'es filmé. Bien sûr qu'il y a des caméras, mais il n'y a aucun enjeu. Mmh. Derrière la caméra, c'est ton pote. Tu bois des bières avec lui après. Tu rigoles, tu fais des vannes. J'ai vraiment, pendant des années... Je me suis éclatée en termes d'ambiance, ou quand tu pars à l'étranger dans des tournages, c'est la colo. Enfin, c'est hyper sympa. Mais après, c'est la diff. C'est, tu vois.
La diffusion,
ouais,
c'est.
La diffusion.
C'est plus ou moins bien pris, c'est plus ou moins coupé, et ça
oui.
t'arrange pas forcément. Et...
Oui, après, voilà, moi, je faisais des émissions de mode, donc il n'y avait pas.
D'enjeu énorme.
Il n'y avait pas d'enjeu énorme, mais. Mais moi, ça m'intéressait pas d'être reconnue dans la rue. C'était trop, parfois trop intrusif. Moi, je suis discrète. Enfin, non, pas très. C'est pas le mot. Mais je suis, enfin, en tout cas, vis-à-vis de ça, je suis, tu vois.
Ouais.
Ok, je peux avoir une personnalité un peu comme ça. Mais en vrai, moi, ça m'intéressait pas du tout. Mais pas du tout. Et puis en plus, on te donne pas la parole comme il faut. Tu vois, j'imagine, si tu dis j'adorerais faire de la télé, effectivement, je te verrais bien dans Quotidien ou des émissions comme ça. Mais t'imagines, c'est la jungle. Il faut que tu plaises à ton animateur qui a quand même le, tu vois,
le pouvoir, ouais.
Qui a un certain pouvoir. Il faut que ça matche avec les chroniqueurs autour de la table. Au-dessus de ça, tu as ton rédacteur en chef. Au-dessus du rédacteur en chef, tu as ton producteur, ta productrice. Après, tu as la chaîne, le diffuseur. Mais tu te rends compte le nombre de gens auxquels il faut que tu plaises et qu'il faut convaincre. Mais laisse tomber.
Bon, on va arrêter sur le podcast alors.
Bah, après, j'en sais rien. Peut-être une chronique mode, ça peut être sympa. Et puis les hommes, j'avoue que c'est quand même un peu différent. Tu vois, il y a une... Il y a une tolérance, je ne vais pas rentrer dans un discours féministe, mais il y a une tolérance à l'égard des hommes qui font de l'antenne qu'il y a moins sur les femmes. Je ne te parle pas du physique. En plus, quand tu parles de mode, toi, du coup, il faut que tu sois hyper bien habillé, alors que pas du tout. Moi, je suis en jean, en t-shirt, en basket à l'année. Ça ne m'empêche pas de savoir conseiller d'autres gens. Enfin, tu vois, trop de pression en ce qui me concerne. Après, j'ai vécu des supers années et j'en garde des souvenirs et j'ai des amis pour la vie que je me suis faite dans ce milieu-là. Et c'est vraiment, c'est fun, quoi. Je ne vais pas mentir. C'est fun. Tu rigoles, tu es avec des gens très drôles. Voilà. Bon, ça, j'ai fait mon temps. Mais je ne dis pas que c'est terminé, hein.
Ça reviendra peut-être. Donc le switch, c'est quoi le comment on appelle ça la liane d'après quoi.
J'ai eu un bébé. En fait, je suis tombée enceinte. J'étais hyper malade. Les dernières années, je vais rentrer dans les détails, mais certaines personnes qui bossent en télé comprendra de quoi je parle. Je facturais en fait mes honoraires d'animation sur une dernière émission que j'avais faite qui s'appelait Belle comme un camion. Donc je n'avais plus d'heures d'intermittent, je n'avais pas de congé mat. Enfin, j'avais rien du tout. J'avais vraiment ce qu'on est quand on est intermittent précaire. Après, je me plains pas. Hein, j'étais pas toute seule. J'avais un voilà, j'avais un toit sur ma tête, un compagnon qui a fait le nécessaire. Mais à ce moment-là, je me suis dit, en fait, c'est pas possible. Je ne peux plus dépendre du bon vouloir d'un producteur, d'un diffuseur, d'une télé, du statut d'intermittent. C'est fini, ça. J'ai 38 ans, 39 ans, je veux avoir un bébé, voilà. J'arrête. En tout cas, je me le dis dans ma tête que je vais arrêter. Et je me dis, écoute, pendant des années... J'avais ce complexe de oh, le relooking, c'est ringard. Je veux pas en parler. C'est pas ça que j'ai envie de faire. Je veux que ce soit plus pointu, etc. Et pendant des années, autour de moi, mes amis disaient, mais tu te rends pas compte, tu as un savoir-faire, tu as une expertise par rapport à nous toutes, par exemple, qui bossons en télé et qui avons envie d'arrêter parce que à 40 ans, tu fais le tour de ces horaires, de etc. Enfin, voilà, je viens d'en reparler. Toi, au moins, tu as cette expertise, certes, en faisant quelque chose. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, je vais essayer de le faire, mais je vais essayer de le faire à la cool. Je vais essayer de le faire avec une image un peu kiffante, un peu sympa, qui soit pas ringard, qui fasse pas trop le cliché de ce qu'on attend du mot relooking avec, tu vois, enfin, toutes ces émissions, tu vois, des avant-après, plus ou moins réussies d'ailleurs. Et je me suis dit, je vais lancer mon propre studio de DA, de conseil en stylisme, etc. Donc, j'ai commencé, j'ai eu tout de suite des clientes particulières, donc j'allais chez elles. Et l'idée, ça n'avait rien à voir avec du Marie Kondo ou quoi que ce soit. C'est pas du rangement. Hein. D'ailleurs, quand je pars, c'est souvent bien bordélique. C'est plutôt du dérangement. C'est sortir tout ce qu'il y a de ces placards, désencombrer, essayer, trier, évacuer. Et une fois qu'on a l'essence même du dressing de cette personne, c'est-à-dire avec les bons basiques, les fringues qui lui vont, pas tachées, pas trouées, pas démodées, tout ce qui reste, et parfois il ne restait pas grand-chose, je faisais du stylisme avec ça, pour leur dire, voilà, maintenant, il te reste l'essentiel, ce qui te va bien, ce que tu peux porter tous les jours sans te poser de questions, maintenant, je vais t'apprendre à faire des looks avec. Donc ça, ça a duré un temps, ça a très bien marché, j'avais plein de clientes, et puis j'avais quand même des demandes en province. Et je me disais, si je dois facturer en plus de ma prestation, le déplacement, la nuit d'hôtel, etc., j'ai pas non plus une clientèle de milliardaires saoudiennes, tu vois. C'est pas le principe. Et moi, si je le fais, si je me déplace, il faut que je puisse, il faut que ça me...
Tu rentres dans tes coûts, tu gagnes un peu ta vie.
Dans mes frais, que je gagne un peu ma vie. Donc, je m'étais dit, OK, les clients particuliers, je peux pas les faire. On n'a qu'à mutualiser. Je vais faire des masterclass dans des endroits chouettes, des hôtels, des showrooms, des boutiques qui nous ouvriraient assez grandes et tout. Et je vais recevoir 20, 30, en fonction des capacités, 40 nanas qui ont envie de savoir. Elles pourront venir avec un sac, une valise, avec des affaires qu'elles ne savent pas porter, mais qu'elles aiment porter. Moi, j'aurai des partenaires, des marques avec moi. Et on essaiera plein de trucs et on fera des ateliers, bien choisir son jean, entretenir son linge, des trucs un peu parfois même de mémé, tu vois, mais hyper la mode pratique, le SAV de la mode. D'ailleurs, j'ai écrit de nombreux projets d'émissions, souvent ça s'appelait le SAV de la mode parce que c'était vraiment ça que je voulais proposer. Genre, j'achète, maintenant j'en fais quoi, tu vois, le mode d'emploi, tu vois. Et bah, ça, c'était prévu pour avril 2020. Et à Marseille, on avait fait un sondage. Du coup, j'ai pris quelqu'un pour travailler avec moi en freelance, pour m'aider à développer tout ça. Donc, on s'était rendu compte que le sud de la France était vraiment là où il y avait la plus forte demande avec Paris. Mais Paris, on s'était dit qu'on pouvait le faire un peu tout le temps. Donc, on voulait frapper un grand coup, faire Marseille pour montrer en plus que la mode n'est pas qu'à Paris, qu'on peut se déplacer, qu'on voilà, on peut y avoir accès quand on est en province et tout. Et ben ça, c'était le 4 ou le 10 avril, il faudrait que je regarde 2020.
Ouais.
Donc, confinement. Hein.
Confinement.
Super.
Un an après, on y est toujours.
Encore une riche idée, voilà. Encore un beau succès que j'avais remporté. Mais comme tout le monde, à ce moment-là, j'étais vraiment, mais genre, j'ai dit, ok, les clientes particulières, je peux plus les faire. Avant que j'arrive à réunir 20 personnes, ou ne serait-ce que 10 dans un même endroit, ça va prendre du temps. À l'époque, j'étais quand même pleine d'optimisme, puisque je fais un post au tout début du confinement, où je dis, allez, ce n'est que partie remise, à dans 3 semaines. Mais t'imagines, ça fait un an, plus d'un an, et j'ai toujours pas réussi à les faire, ces masterclass. Donc je pense qu'on était tous un peu dans le déni, tous un peu à pas savoir quand est-ce que ça allait se terminer. En tout cas, impossible de faire ces masterclass en physique. Et à ce moment-là, démarre une espèce de nouvelle ère d'Instagram, les lives, que je connaissais pas. Je savais même pas sur quel bouton appuyer. Et je suis contactée par des marques de beauté, de mode, de fringues, de maillots, RS, Bash, quoi d'autre, M Skincare, Prescription Lab, enfin... plein de trucs comme ça, plus habitués au live et qui me disent, voilà, est-ce que ça te dirait de faire un live chez nous, trouve le thème, voilà, c'est le printemps, j'en sais rien, etc. J'en fais un, 2, 3, 4, 5, ça marche hyper bien, ça marche hyper bien en termes de retour, de messages privés que j'ai, en termes de vues, certains lives, j'ai fait 7000 vues et encore, tu sais, c'était un résumé, tu vois, il y avait vraiment beaucoup de monde. Il faut dire qu'à l'époque, tout le monde était devant son téléphone.
Et tout le monde était bouclé à la maison.
Tout le monde était bouclé à la maison. Donc voilà, beaucoup de monde. Et je me dis à ce moment-là, je me dis, mais en fait, ça marche bien en digital. Moi, j'ai toujours eu en tête qu'il fallait que les nanas essayent,
qu'elles touchent.
Que je leur montre et qu'elles touchent. Puis après, je me suis dit, mais attends, mais les e-shop, en fait.
Ils y arrivent bien.
Ils y arrivent bien à vendre des fringues sans que les nanas elles touchent, etc. À ce moment-là, je dis, ok, j'arrête tous les lives, on m'a trop vu, de toute façon, j'en pouvais plus. Tout le monde prenait la parole, t'allumais ton téléphone, t'avais des gens qui étaient en direct H24. Je disais, il faut que ma parole, elle se fasse un petit peu plus rare. Et j'ai commencé à gratter mon idée de masterclass sur Zoom, quoi, sans avoir jamais fait une réunion Zoom, hein, puisque n'étant pas dans un milieu corporate, j'avais pas eu à en faire. Voilà. Donc, à ce moment-là, je sais pas comment je vais faire ça, je prépare tout toute seule, j'ai pas de stagiaire, j'ai rien, et je lance ma première masterclass au mois de mai qui s'appelait la valise d'été et qui consistait à dire un peu tôt d'ailleurs dans la saison, mais je crois qu'on avait tellement envie de se barrer tous, à dire aux participantes, à leur expliquer qu'il fallait arrêter de surcharger leur valise d'été, et à travers la valise c'était plus une garde-robe d'été que je voulais exprimer, et on a vu ensemble qu'est-ce qu'on mettait comme essentiel, comment faire, comment avec un maillot, une pièce noire, un short en jean et une chemise blanche par exemple, bah déjà tu pouvais composer 3 looks pour la nuit, pour le jour, pour la plage, pour voilà. Et ça a vachement plu. Et j'étais hyper surprise. Et quand j'ai mis les places en vente, mais j'ai coupé mon téléphone, mais j'en avais la nausée de me dire, en fait, j'avais l'impression que mon avenir se jouait là-dessus. Je me suis dit, si ça ne marche pas cette première édition, alors que c'est pas vrai, peut-être la première aurait pu pas marché, les autres oui, mais j'avais l'impression qu'en fait je tenais mon avenir entre les mains là.
Tu jouais ta peau, ouais.
Je jouais ma peau, alors j'aurais trouvé encore une autre idée, j'en manque pas, tu vois. Mais est-ce qu'elles sont bonnes à chaque fois, je suis pas sûre. Mais là, en tout cas, et en fait, j'éteins et je dis bon, au moins 20. Et Carmel, avec qui je bosse, on dit écoute, si c'est trop la loose, qu'on a vendu que 2 places, tu pourras dire à tes copines de t'inscrire, qu'on fasse genre, on est un peu nombreux. J'ai dit, moi, je demanderai aux miennes, tu vois, qu'on soit au moins 20, faire genre les faux clients de la masterclass. Et en fait, je rallume mon téléphone et je crois que j'en avais vendu 150 en une matinée, tu vois.
Trop bien.
Et, et du coup, hop, j'ai switché, j'ai eu peur. J'ai dit, ah, il y en a trop. Ah, maintenant, il y en a trop. Ah non, j'ai l'angoisse. Ah non, il y en a trop. Et si j'y arrive pas, et si c'est nul, et tu vois, genre trop. Enfin, trop bizarre, trop de succès, trop. Enfin, j'exagère là. Enfin, tu comprends ce que je veux te dire.
Je comprends ce que je veux dire. Et ces filles là qui s'inscrivent, elles viennent chercher quoi? C'est qui ces femmes? Et pourquoi elles ont besoin de. Je le dis pas souvent, mais je m'en rends compte avec ma marque, c'est qu'on a que il y a beaucoup de femmes qui sont en demande de conseils et qui ont pas beaucoup de confiance en elles sur ces sujets de comment s'habiller, ma forme, ma morphologie, etc. Toi, finalement, tu réponds un petit peu à leurs besoins.
Ouais.
Mais qui sont-elles et pourquoi à 30, 40, 50 ans, on sait pas encore qui on est, qu'est-ce qui nous va et comment s'habiller.
Alors, qui sont-elles? Ce sont des femmes qui aiment toute la mode. Voilà, ça, c'est quand même le dénominateur commun.
Elles aiment se fringuer, elles aiment s'habiller.
Elles aiment s'habiller.
Elles aiment le chiffon.
Elles aiment le chiffon, exactement. Elles ont un pouvoir d'achat qu'elles utilisent plus ou moins à bon escient. Et elles ont... De plus en plus, c'est parce que c'est vraiment mon discours, je capte aussi toute une audience qui en a marre en fait, qui se rend compte qu'elle a trop acheté, pas assez porté, qui a envie d'investir dans de bons basiques, qui est sensibilisée à l'écologie, à l'avenir de la planète. Elles ont des enfants ou elles n'en ont pas. En tout cas, elles ont toute cette volonté de faire des économies. D'une part, mais c'est pas ça l'objectif. C'est faire des économies, ok, mais c'est surtout mieux employer son argent. Et finalement, le matin, quand elles ouvrent leur placard, elles ont envie que ce soit une happy place. Mmh. Tu vois, moi, chaque fois dans mes masterclass, il y a toujours une partie où je dis « faites de votre dressing havre de paix ». C'est ce que vous allez ouvrir le matin, ça va conditionner le mood de la journée. Quand on trouve pas de quoi s'habiller... ou qu'on sort avec un look qui nous va pas, ça nous flingue la journée. Et c'est pas superficiel de le dire, c'est la vérité. C'est notre image qu'on voit dans le miroir, c'est celle qu'on renvoie aux autres. Quand on est maquillé, apprêté, joli, on va aller plus volontiers vers les autres. En tout cas, voilà. Mais bien sûr que t'es plus avenante quand tu te sens jolie. Alors après, ça passe par le maquillage ou autre chose. Mais en tout cas, c'est hyper important. Moi, quand j'entrais dans le placard des nanas, et même quand je faisais mes émissions d'M6, je les voyais en culotte et soutif. C'est intime, en fait, le rapport que j'entretiens avec toutes ces femmes depuis toutes ces années-là. Je rentre dans j'écoute leurs complexes. Et même quand elles sont... 700 sur une masterclass, c'est pas grave, c'est une même voix de femme qui parle, même s'il y a 1000 histoires à raconter derrière. Moi, c'est assez co-participatif, hein. Je fais des sondages, j'essaie de répondre de façon la plus ciblée à leurs questions. Et puis en fait, à force d'en avoir vu, côtoyer, non seulement dans mon boulot, mais autour de moi, des femmes, puisque maintenant je vais avoir 42 ans en juin, tu vois, je commence à avoir roulé ma bosse un peu auprès des femmes, j'arrive à savoir en fait ce qu'elles attendent, ce qui leur fait peur. Donc, j'essaye vraiment de les rassurer le plus possible. J'essaye de leur sortir de la tête ces histoires d'injonctions autour de la morphologie. Ça suffit, en fait, ça. C'est leur obsession.
Elles se raccrochent à ça, non?
Mais il n'y a que ça, en fait. Mais ce n'est pas qu'elles s'y raccrochent.
Mais comment tu réponds, en fait? Comment
c'est
tu casses...
sont victimes.
Comment tu casses cette croyance?
J'essaie d'être la plus généraliste possible. J'essaie de montrer des photos d'Ashley Graham, qui certes a une très belle gueule, mais qui est quand même une vraie plus size en taille 48. Là, sur la dernière masterclass, j'ai montré une photo d'elle en beige et en moulant pour leur dire, arrêtez de dire que quand on est en beige, que le beige moulant, ça ne va qu'au skinny. De la même façon, les jupes longues, j'ai trouvé des photos de Kim, de Chloé, je sais plus comment elle s'appelle, Kourtney Kardashian, qui ne mesure qu'1m55, qui a des hanches, qui a des seins, qui est pas non plus gaulée comme une déesse, avec des jupes longues, moulantes, en me disant, mais regardez, arrêtez de dire, je suis trop petite, je peux pas porter ça. Miniaturisez vos vêtements. Mmh. Les Barbies, elles sont petites. Ben, ça leur va bien, les jupes longues et les jupes courtes. Mmh. Non, mais les poupées Corolle. Enfin, tu vois, c'est une question de miniaturisation ou au contraire d'agrandissement. Voilà, de la même façon.
Donc, ouais, un truc que je me suis rendu compte aussi, c'est... j'ai l'impression que quand on se regarde dans la glace, et je parle de moi-même, tu vois, on s'attend à une silhouette, on s'attend à une image. Et dès qu'on n'est plus dans cette image-là, par exemple, moi, je mets que des pantalons assez larges. Et je les retrousse beaucoup parce que ça me permet de couper un petit peu ma silhouette et de m'agrandir. Enfin, j'ai le sentiment que ça m'agrandit, en tout cas. Et par exemple, dès que je mets un slim... je me trouve horrible parce que je vois mes grosses cuisses, je vois mes petites jambes et je trouve ça immonde. Et j'ai le sentiment qu'on a tous cette silhouette dans la tête et dès qu'on dévie ou qu'on essaye quelque chose qui ne convient pas, eh ben, bah, je ne l'achèterai pas parce que ça ne me convient pas. Alors que, objectivement, quelqu'un qui ne te connaît, enfin qui te connaît, qui te regarde et qui n'est pas toi, va te dire mais ça te va très bien et bien ça t'affine et c'est très beau, etc.
En fait, il faut pratiquer vraiment l'auto-bienveillance, le self-esteem. Il ne faut pas trop non plus écouter son entourage parce que selon... on dit souvent « Ah, mais les gens sont jaloux, ils vont mal te conseiller. » Mais aussi, les gens t'aiment. Et en t'aimant, ils ont un regard qui est peut-être trop bienveillant sur toi et... La vraie difficulté d'être face au miroir, c'est l'objectivité, en fait. Qu'elle soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Moi, ce que j'essaye de leur dire, c'est ne vous forcez pas à porter des choses que vous n'aimez pas et dans lesquelles vous vous sentez pas bien. Mais en revanche, ne vous interdisez pas de porter des choses parce que quelqu'un, un jour, dans une émission ou dans un magazine féminin, vous a dit que les rousses ne pouvaient pas porter de couleur pastel ou que, j'en sais rien, quand on était petite, le long s'attassait. En fait, il faut juste arrêter d'avoir vraiment ces clichés qui vous empoisonnent en fait l'existence. Moi, pareil, hein, y a des trucs, tu me les fais même pas porter en rêve et pourtant, peut-être que ça m'irait bien. Voilà. Je dis pas que tout le monde doit tout porter, je dis juste que il y a des choses qu'on n'aime pas, qu'on n'aimera jamais, et on nous fera pas changer d'avis, mais en revanche on ne s'interdit pas d'essayer d'autres choses. Voilà.
Et l'histoire des couleurs, c'est pareil.
C'est n'importe quoi, l'histoire des couleurs.
Couleurs chaudes, couleurs froides, carnation, etc.
Mais tout va avec tout. Et puis en plus, ça dépend des jours. Un matin, tu vas avoir de la rosacée. Alors évidemment, tu vas éviter de t'habiller en rouge parce que ça va faire ressortir. Mais le lendemain, pas du tout. Et puis, il faut essayer, en fait. Il faut tester, il faut tenter. Moi, il y a des couleurs, a priori, tu te dirais, bon, bah, sur moi, ça ne me va pas du tout. Et puis... imagine du vert, je te dis n'importe quoi. Un vert clair, non. Un vert plus foncé, oui. Enfin, il n'y a aucune règle. Ce n'est pas une science exacte. Ce ne sont pas des mathématiques. On parle de goût, on parle d'esthétisme. C'est comme en déco. Tu peux pas dire je fais un mobilier 100% années 70 ou un mobilier 100% années 80. Et puis attention, si j'ai tel papier peint, je mettrai pas tel rideau. Regarde le look, j'en sais rien, Jacques Garcia, les hôtels Coste, Madeleine Chastain, tout ça, tout était mélangé. Il y avait du léopard avec des rayures, etc. Ce qui compte, c'est d'avoir du style et de l'allure, tu vois. Tu peux être une cagole de Marseille ou de Corse avec un rouge à lèvres fluo et des triples plateaux en plexi. Si ça te va bien, si tu l'assumes bien, tu vas être belle, en fait. Moi, tu vas être une gothique, tu vois. Je vais dans les extrêmes, dans les clans. Une gothique, mais aboutie, mais jolie, avec une vraie identité, mais c'est génial. Moi, j'adore. Ce que je déteste, c'est les looks formatés, que tout le monde habille pareil, les mêmes marques, au même prix. C'est nul, tu vois.
Avoir du style?
Avoir du style, c'est s'affranchir de toutes les règles, en fait. Et une fois que tu t'en es affranchi...
Il faut les connaître.
Non, mais on les connaît.
En fait, il faut s'écouter, il faut s'habiller de façon instinctive. Et si ça te plaît, ça te plaît, et basta cosy.
Exactement. Tu vois, c'est comme la nourriture, en fait. Avoir du style, c'est... moi, je fais souvent des métaphores culinaires parce que je suis tellement nulle en cuisine, en tout cas en improvisation, etc., que j'arrive du coup à me mettre dans la peau d'une nana qui est nulle en stylisme. Je vois très bien ce que ça fait que d'être en face d'un dressing comme je suis
en face d'un frigo,
comme ça, en disant « Ok, bon, alors ok, donc qu'est-ce qu'on va faire ?» Alors qu'il y a des nanas qui vont te cuisiner les restes, qui vont te faire des trucs de fou. Ben moi, tu me mets dans n'importe quel dressing, n'importe quel, et Dieu sait si j'en ai vu des complicados, notamment quand j'étais sur M6, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Parce qu'il y a toujours un bas, un haut et une veste, tu vois. Donc, avoir du style aujourd'hui tel que moi je l'entends, c'est
s'affranchir
se faire
des
plaisir,
règles.
S'affranchir des règles, s'écouter et surtout, mais surtout, considérer ça comme un amusement. On a beaucoup de contrariétés extérieures. Enfin, là, on vit quand même une période qui est compliquée, c'est un euphémisme. Mais vraiment, c'est s'amuser, quoi. Et assumer ce qu'on est, y compris quand c'est chum et quand il y a des jours. Qu'est-ce que tu crois qu'il y a des jours où je me regarde, je dis, oula, c'est compliqué aujourd'hui. Hein,
mais une fois, alors que tu as dit qu'on s'affranchissait des règles, qu'est-ce que tu dis dans ta masterclass?
Ouais, bah, c'est tout, voilà. Merci d'avoir payé. À bientôt. Mais qu'est-ce que je dis? Mais je vais te montrer. J'ai 200 pages de slides qui m'accompagnent. Je montre. Qu'est-ce qu'on va trouver cette saison? Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ou pas? À qui ça va? Dans quelles circonstances on va le porter? Avec quoi? Comment ça va mixer et matcher avec ce qu'on a potentiellement déjà dans son placard? J'apprends à faire du tri, j'explique tout bien, comment tu tries, comment tu ranges, comment tu dois rafraîchir ta garde-robe à chaque saison sans rien acheter, simplement en faisant monter les pulls en cachemire en haut, redescendant à portée de main l'été, le printemps. J'ai fait beaucoup de placards où les nanas, en fait, elles avaient les manteaux à côté de la jupe d'été, de la tenue du baptême, sous le plastique du pressing. Tu vois, si tous les ans tu tries, au printemps, bah là voilà, pourtant il fait un temps pourri, bah c'est pas grave, t'as déjà enlevé les gros pulls et tu te débrouilleras avec une écharpe, mais t'as fait, tu mets plus en valeur tes robes à fleurs, tes imprimés, tes couleurs, ça t'empêche d'acheter n'importe quoi en fait, parce que t'as déjà tout et ça te donne ce sentiment de renouveau que tu cherches à chaque fois que tu t'achètes un petit quelque chose. Tu vois, ce renouveau avant d'aller l'acheter ailleurs, il faut le trouver chez soi. Parce que tout le monde, tu sais, quel que soit le budget, quel que soit l'appartenance sociale des femmes que j'ai côtoyées dans ce métier-là, tout le monde a trop de fringues. Tout le monde.
Tout le monde.
Y compris vraiment les gens avec des petits budgets, avec des SMIC, j'en ai fait. J'ai tout fait. Je suis allée en banlieue, je suis allée en province, je suis allée dans des cités. Je t'assure que j'ai vu toutes sortes de femmes. Vraiment.
Et à chaque fois, c'est le même constat.
C'est
trop
le même
fringues,
constat.
Trop de fringues.
Trop de fringues.
Mal utilisées.
Mal utilisées. De l'argent mal employé. Et puis, je ne te parle même pas de l'impact écologique. Ça, c'est une nouvelle question qui est assez récente. Mais il y a le problème de l'argent, il y a le problème de cet impact. C'est important aujourd'hui, c'est nécessaire.
Et quel est ton regard alors sur cette industrie de la mode? Toi qui la côtoie depuis si longtemps. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tu te bats beaucoup pour le seconde main.
Ouais.
Et tu mets ça vachement en avant, etc. Ouais. Chiner sur Vinted, sur les eBay, les vestiaires.
Voilà, partout où on peut chiner la seconde main, bien sûr.
En physique et sur Internet. Et sur ces nouvelles marques et ces marques historiques qui sont là depuis très longtemps. Quel est ton regard? Est-ce que tu penses qu'elles vont dans le bon sens? C'est une question assez large et assez difficile finalement, mais bon, je pense que t'as ton avis.
Il y a plusieurs catégories, si tu veux. Moi, vraiment, aujourd'hui, je m'interdis quasiment d'acheter de la fast fashion pour moi. Parce que c'est de la fringue jetable. Parce que pour moi, ça n'a pas de valeur et je sais que je vais m'en débarrasser. Donc ça, je ne veux plus ce circuit-là, tu vois. En revanche, pour mes enfants, je peux aller... Voilà, j'ai des petites marques que j'adore depuis toujours, Bon Point, Bon Ton, etc. Mais je continue à aller chez Zara. Parce que là, de toute façon, tu n'as pas le choix. C'est de la fringue jetable, puisque tes enfants grandissent. Donc, j'ai gardé, alors qu'elles ont 9 ans d'écart, les jolies pièces de ma fille aînée pour la petite dernière, sans être sûre d'avoir cette petite dernière et sans être sûre que ce soit en plus une fille. Mais j'ai bien fait parce que j'ai gardé plein de choses et je suis très contente que ma petite fille les porte. Voilà. Ensuite, il y a les grandes marques, l'industrie du luxe qui, de plus en plus, va vers des systèmes bien plus propres dans tous les sens du terme, éthique, écologique, etc. Et moi, je crois vachement à votre économie à vous réunie, tu vois, à produire ce dont on a besoin, à accepter de faire peut-être un peu moins de profit en ne commandant pas 1000 pièces que tu aurais pu vendre ou pas vendre. Voilà, en prenant comme ça des paris sur les ventes, en faisant confiance à sa communauté, etc. Et puis pour vous, tout votre système de co-création, quoi de mieux que de dire, bah moi mon pantalon je le veux comme ci comme et comme ça, tu vois. Moi c'est à ça que je crois, j'essaye vraiment de pousser toutes ces marques. D'ailleurs, réunis, vous étiez partenaire, on m'a parlé de vous dans la masterclass. Soit des petites marques, alors après, pas tout le monde n'est 100% green. Tu sais, pour être 100% green, il faudrait
ne pas produire.
Tondre sa propre laine de tes propres moutons que tu fais dormir dans ton lit pour être bien sûr qu'ils ne sont pas maltraités. Enfin, c'est impossible. En revanche, voilà, j'en ai déjà parlé dans un podcast. Être parfaite, non, je ne le serai pas, personne ne le sera. Mais juste être le plus en face possible avec ses convictions, ça c'est possible. Et surtout aujourd'hui c'est fini Naturalia, nature et découverte, les chaussures en chanvre et compagnie. Aujourd'hui tu peux t'habiller bio, éco-responsable avec des marques de ouf, avec des styles de ouf, et c'est comme cuisiner enfin c'est pas exactement la même chose, mais moi par exemple j'adore les gens qui cuisinent les restes. Je trouve ça trop super. Quand tu sais que moi, tout ce que je balance parce que je ne sais pas quoi en faire et qu'au bout d'un moment, ça moisit, il y a de la mousse et des nouveaux animaux, des nouveaux écosystèmes dans ce frigo. Donc, tu vois, cuisiner les restes, c'est un peu comme... c'est la seconde main, c'est aussi l'upcycling. Tu vois, c'est ce qu'il faut que tout le monde fasse. Et notamment sur cette histoire d'upcycling, il y a beaucoup de participantes qui n'ont pas des réflexes de tout simple de grand-mère. Il y a un trou, on tège, on balance. Tu vois, on ne met pas une pièce, on ne recoupe pas. Maintenant, il y a des techniques japonaises de broderie hyper sympas. Tu vois, ou quand j'arrivais dans des placards et qu'il y avait des robes, à celle-là, je ne la mets pas. J'ai dit, mais alors que j'adore le haut, j'ai dit, mais coupe-la, fais-en un haut et un bas. Ah oui, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Donc, tu vois, essayer d'être inventif avec sa garde-robe, comme on l'est avec la bouffe, essayer de miser sur des marques françaises qui se défoncent et qui sont tout aussi bien que le reste. Après, comme tu dis, le sujet de la mode est vaste, mais pour avoir vu le dernier documentaire sur Arte, j'avais vu aussi l'autre qui s'appelait The True Cost et celui-là, je ne sais plus comment il s'appelle, sur la fast fashion. Enfin, vraiment, tu regardes ça, tu es un peu dégoûté, quoi.
Ouais, c'est chaud.
C'est très, très chaud.
Tes masterclass, on peut dire que c'est un produit que tu vends. Tu as plusieurs thématiques de masterclass. Oui. Tu en sors une tous les combien et comment tu te renouvelles sans faire du réchauffé à chaque fois et comment aussi tu renouvelles ta clientèle?
Alors, c'est très bien ce que tu me poses comme question parce que c'est ma hantise qu'une participante d'une masterclass se dise « Ah, mais c'est la même que l'autre ». Donc, je suis hyper vigilante. Je change toute la DA de toutes les masterclass. C'est jamais la même typo, c'est jamais les mêmes couleurs, c'est jamais la même façon de présenter, c'est jamais la même mécanique. Comme ça, même si tu entends les mêmes conseils, visuellement, tu les as d'une autre façon. Et puis moi, étant donné que c'est du live et de l'impro, en quelque sorte, ce sera jamais exactement la même chose. Après, en termes de thématique, là, ça ne fait qu'un an. Donc, c'est plutôt l'année prochaine que je vais me poser la question. Parce que là, en thématique, j'ai fait les essentiels. Tu vois, j'ai fait partir en été, j'avais envie de faire quelque chose autour du mix and match parce qu'on me le demande tout le temps, le mélange des couleurs, des imprimés, etc. Il y a une basique thérapie qui a cartonné où c'était vraiment la base de la garde-robe d'hiver, working girl, vintage thérapie et la spring. Donc, et la prochaine, ce sera beach thérapie. Donc là, si tu veux, ça va, ça roule. L'année prochaine, effectivement, il faut que je pense à me renouveler. J'ai par exemple énormément de demandes de femmes enceintes. Je ne les ai pas prises en compte jusqu'à présent, même si de temps en temps, quand j'ai une pièce qui me semble appropriée pendant mes masterclass, j'en parle. Mais en fait, c'est une vraie question aujourd'hui. Peut-être parce que moi, j'étais assez malade et que finalement, j'ai mis les jeans de mon mec avec un grand t-shirt pendant toutes mes grossesses et que je n'y ai pas prêté attention parce qu'aussi, j'étais en arrêt, que je ne travaillais pas. Mais il y a des femmes qui bossent, qui ont besoin de s'habiller, qui ne savent pas comment faire. Donc, tu vois, je pense que par la suite, je vais essayer de trouver des choses qui sont peut-être un peu plus niches, qui concerneront un peu moins de gens, mais qui vont quand même susciter de l'intérêt, j'espère. Donc, je me renouvelle vraiment dans les thèmes. Et puis dans les conseils et dans la DA, vraiment. D'ailleurs, je m'emploie à reposter systématiquement les commentaires de mes participantes qui disent à chaque fois on est surprise, c'est jamais la même chose. Ça, c'est une exigence un peu journalistique que j'ai, qui me vient justement de mon expérience, de mes années télé, où en fait il faut toujours trouver des nouveaux concepts, des nouveaux formats, des trucs qui intéressent. On se creuse la cervelle en dev, ce qu'on appelle en dev quand t'es en développement sur des émissions, quand tu dois chercher du contenu, etc. Donc j'ai une vraie exigence vis-à-vis de ça, enfin vraiment quoi.
Et tu le fais à quelle fréquence, ces masterclass?
Écoute, j'en ai fait donc 6 en un an. C'est à peu près 2 par mois, si j'arrive à compter, ce qui est vraiment possible que je me trompe.
Une tous les 2 mois?
Ouais, une. J'ai dit ça ou pas?
T'as dit 2 par mois. Une tous les 2 mois. C'est pas grave.
Il y a un truc qu'on n'a pas détecté chez moi, c'est la dyscalculie. Et je voudrais aller voir mes profs en leur disant, regardez, voyez bien que des années après, je confonds encore les trucs. Donc une tous les 2 mois.
Voilà.
Voilà, a priori. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est
au feeling quand t'es prête, quoi.
C'est au feeling quand je suis prête, quand le thème s'y prête, quand il y a eu un gros buzz, entre guillemets, autour d'une masterclass, notamment la basic thérapie que j'ai continué à vendre en replay après. J'avais pas envie de tabasser tout de suite avec une autre parce qu'en fait, c'est addictif. Les nanas, elles ont envie d'en acheter une autre. Moi, ça me fait de la peine. J'ai pas envie de leur faire dépenser leurs sous. Mais je te jure que je suis à ce point-là. Dire non, quand même. Donc, tu vois, après la basic thérapie, on s'est posé la question. Je voulais absolument faire une Christmas thérapie. À chaque fois, j'essaye d'avoir le mot thérapie parce que ça s'y prête bien, en fait. C'est vraiment ça. Et je me suis dit, non, attends, les pauvres, c'est Noël. Elles ont déjà dépensé dans la basic thérapie. Après, c'est pas hors de prix, c'est 69 et 79 euros. Ça dépend des masterclass. C'était 69 quand je n'étais pas soumise à la TVA, c'est passé à 79. C'est pas non plus énorme, mais je comprends que ce soit un produit qui n'est pas tangible. C'est du digital. Tu dans ta tête, avant de l'avoir fait, tu ne reçois rien. Alors qu'une fois que tu l'as faite, tu te rends compte à quel point tu as été utile. Et puis, tu as ce e-book de 200 pages qui, finalement, c'est comme si tu avais acheté une encyclopédie, d'une certaine façon.
Universalis.
Un petit peu, avec tout mon savoir dedans que j'étale allègrement.
Ouais.
Tout ça pour te dire que j'ai un compte qui regroupe toutes mes participantes de masterclass, parce que chaque masterclass a son compte Instagram privé dédié, dans lequel je poste des choses et je fais le SAV de la masterclass. On répond aux nanas si elles ont des questions. Je reposte encore des inspi, des trucs, etc. Mais il y a aussi un compte qui s'appelle The Dressing Therapy Social Club et qui regroupe toutes les participantes de toutes les masterclass confondues, qu'elles en aient fait une l'année dernière ou qu'elles aient fait les 6. Et sur ce compte-là, parfois, il m'arrive de faire des jeux concours, de donner des conseils, d'annoncer en avant-première un truc que je vais faire ou si on a un petit avantage avec un partenaire, je leur donne, tu vois, pour avoir cette notion de communauté. Parce que c'est pas pour faire ma hippie, mais je pense que vous aussi réunis. Mais moi, j'ai vraiment une chouette communauté. J'ai de la chance. Après, je pense qu'on a la communauté qu'on mérite.
Comme on fait son lit, on se couche.
Exactement.
On
récolte répertoire d'expression, on récolte ce que l'on sème.
Voilà.
Chacun voit à midi à sa porte et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est que je pense que justement, comme je n'ai pas un profil vraiment d'influenceuse et que j'ai su mettre des limites aussi sur tous les conseils qu'on peut me demander en privé, voilà. Je ne suis pas non plus corvéable à merci. C'est mon travail et les gens le respectent. Et pour le coup, j'ai des nanas tellement chouettes, tellement mignonnes. Mais si tu savais ce qu'elles écrivent, comme c'est mignon et comme ça nous fait plaisir. Et quand tu bosses comme un yinche pendant des heures, j'ai dû perdre 10 points de vue. Il me faut des lunettes tellement je suis sur les ordis et tout, à fouiller, à chercher. Et quand on te dit... Mais ça devait être remboursé, ça devrait être remboursé par la Sécu. Ça m'a fait passer un bon moment. C'est trop sympa. C'est mon moment à moi. Mais t'imagines, en fait, c'est hyper. Du coup, ça me donne une responsabilité. Après, ça me fait peur. Du coup,
c'est du dev perso ou c'est autre chose?
Non, les masterclass.
Quand tu parles de thérapie, il y a un côté développement personnel.
Mais carrément.
C'est du dev perso. T'es un peu le Tony Robbins de la mode.
Bah écoute, j'ai envie de te dire que je suis le nouveau gourou. D'ailleurs, j'ai créé une secte à cet effet. Ça coûtera un petit peu plus cher que les masterclass. Non, mais bien sûr qu'il y a de ça dedans.
Bien sûr.
Je parle à des femmes. Mm. T'imagines ce que c'est être une femme, Adrien ? Est-ce que tu réalises ?
J'ose même pas. Tu perds
du poids, tu te fais plaquer, tu divorces, tes mères célibres, ou tu viens de te mettre en couple. Mais c'est... Vous êtes pareil, vous rasez la barbe et vous partez de chez vous, tu vois ? Mm. Et encore, toi, tu la rases pas.
j'ai oublié. Je me coupe pas les cheveux, je me rase pas.
T'imagines, nous, ce qu'on se trimballe. Non, mais c'est la vérité, tu vois.
Non, mais
je suis d'accord. J'aurais préféré être un mec, je te le
moi
dis
aussi,
honnêtement.
Moi aussi, je préfère être un mec.
Non, mais tu le penses
bah, clairement.
Vraiment.
Ah, mais je le pense vraiment.
Mais t'imagines pas. Alors, non, après, j'ai des copines qui disent « Ah non, c'est trop génial d'être une femme. » Mais c'est tellement relou d'être une femme. Et au-delà de ça, voilà, il y a les hormones, il y a les hauts, les bas. J'ai la responsabilité de parler à ces femmes. Mmh. J'ai la responsabilité de prononcer des mots qu'elles n'oublieront peut-être jamais, comme on a tous eu des réflexions dans notre vie, la plupart du temps, pas les meilleures, pas les plus sympathiques, qui nous ont marquées, tu vois. Moi, un jour, ma cousine m'a dit « Ah, t'es comme mamie, t'as le nez court. » Alors, depuis ce jour-là, je n'ai qu'une obsession en tête, mon nez est trop court. Elle aurait pas dû me le dire. Mais tu vois, c'est des trucs de... Dans ta vie, de femme, ou peut-être d'homme aussi.
Ouais, on me l'a déjà dit aussi.
Voilà. T'as entendu des choses qui t'ont conditionné.
Oui.
Tu imagines si moi, je prends la responsabilité ou le risque de dire quelque chose,
ouais,
la nana va le prendre,
elle
va l'intégrer,
vie, ouais.
Va le traîner toute sa vie en me disant oh, « Mais c'est vrai qu'en fait, comme je suis ronde ou petite ou trop mec, je devrais pas mettre ça. » Et toutes ces années où je l'ai porté, alors c'était la honte. C'est la... De toute façon... Quel que soit ton secteur d'activité, quand tu prends la parole, c'est une responsabilité. Mmh. C'est pour ça que j'en reviens à ta première question du début. Je suis honnête, je suis intègre et je ne prends pas les gens pour les cons. Mmh. Pour des cons, c'est important. C'est ce qui fait que enfin, je ne sais pas, c'est ce qui fait peut-être la différence, j'espère, ouais. Tu vois.
Bah justement, il y a d'autres gens qui font un peu la même chose que toi aujourd'hui ou pas ?
Si, j'imagine, ouais. Je suis bien copiée quand même.
T'es copié ? Mmh. Comment est-ce qu'on fait justement pour se protéger de la copie ? Et qu'est-ce qui fait que t'es vraiment différente des personnes qui te copieraient ou qui feraient la même chose que toi ?
Alors, légalement, se protéger de ce que je fais, c'est impossible.
Ouais.
J'ai pas inventé le concept de masterclass. C'est pas moi qui ai inventé Zoom. Quel dommage ! Je ne serai pas là pour te parler. Je serai à Los Angeles avec des boys autour de moi. Je ne travaillerai plus. Et j'aurais fait beaucoup de chirurgie esthétique. Donc voilà. Donc voilà. En termes de protection, de propriété intellectuelle, etc., c'est impossible. Après, ce qui fait la différence, je l'espère, c'est mon expertise. Ça fait 20 ans. Les gens qui me suivent ont pu, avant d'avoir acheté quoi que ce soit que je vends, ont pu me voir à la télé. Donc,
ouais, t'as
quand
même une crédibilité de fou.
J'espère. J'ai déjà sorti un bouquin. Enfin, tu vois, j'espère. Et puis, j'espère que ce qui me sauve, c'est ma personnalité et le fait que je sache prendre la parole pendant 4 heures d'affilée sur un Zoom sans avoir l'impression que tu tapes la réunion avec le board de Alcatel. Tu vois ? L'idée aussi, c'est d'animer. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis seule face à ma caméra.
Ouais.
J'ai un petit chat où je vois les nanas qui rigolent, qui réagissent, mais je ne les vois pas. Hein.
Mais quand tu as 700 personnes qui réagissent, comment tu fais pour capter les questions, etc. Comment tu arrives à...
J'ai l'œil sur le côté, ouais. Je regarde le chat. Carmel et mes petites stagiaires trop mimi, elles répondent aussi en même temps. Elles sont à côté. Et puis, de temps en temps, je m'interromps. Je regarde. Mais tu sais, c'est un vrai petit spectacle, hein. Attention, je mets de la musique, on rigole.
Ouais, mais j'ai vu des extraits, vite fait, il y a des filles qui ont partagé sur ton
compte.
Ouais.
J'ouvre toujours sur une musique et il y a toujours un mot de passe pour accéder à l'e-book parce que tout est, laisse tomber, c'est le parcours du combattant pour justement protéger mon contenu. Donc tout est protégé par des mots de passe, etc. J'essaie de les faire marrer, voilà, c'est des private jokes avec 400 personnes, c'est ça qui est drôle, tu vois, avec des mots de passe farfelus. Avec des chansons à la con, des choses dans lesquelles on, voilà, si je voulais être pointue, j'ouvrirais sur Daft Punk parce qu'ils viennent de se séparer, ou j'ouvrirais sur des trucs encore plus branchés et tout. Moi, je sais pas, j'ouvre sur Félix Greff, on s'en fout, c'est pour danser, tu vois. On danse, on s'amuse, on passe un bon moment. Et voilà, j'espère que c'est ça qui fait la différence. Moi, j'ai fait des émissions qui étaient certes pas en direct, mais que je tournais pendant 14 heures, maquillée sur des talons avec des caméras. Donc c'est pour ça que les filles elles disent oh là là, t'as tenu 4 heures, mais j'ai tellement tenu plus longtemps que ça, tu vois.
C'est quoi la suite des événements et comment on se renouvelle? C'est la peur de la feuille blanche à chaque fois,
tellement.
J'imagine.
Bien sûr. Ouais. Alors la suite des événements, c'est évidemment, si tu veux, quand j'ai créé les masterclass, j'ai tout créé comme ça, la tête dans le guidon. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de business plan. Enfin, en même temps, il n'y a pas besoin d'en avoir. C'est tellement simple, tu vois. Et j'ai jamais le temps, en fait, de me poser sur le dev, de réfléchir, puisque je suis toujours dans la roue de la masterclass d'après. Là, pour des raisons imposées par la situation sanitaire, j'ai mes filles pendant 4 semaines, donc je vais essayer de me poser, de réfléchir à la suite. Mais effectivement, j'essaie d'avoir le coup d'avance tout le temps. Tout le temps, de me dire et quand ça va s'arrêter, quand tout le monde va repartir au boulot, est-ce que Zoom ça va rester? Et puis même, est-ce qu'au bout d'un moment on n'en aura pas marre de moi? Mais je me remets en question en permanence. T'imagines si je me reposais sur mes lauriers? C'est le meilleur moyen de se planter, de croire que t'es la meilleure et que pas du tout. Et puis chaque veille de masterclass, c'est nul, elle est nulle celle-là, elles vont pas aimer. Et puis de toute façon, chaque fois que je poste, que je mets les places en vente, il n'y a pas de participante, ça va, je savais qu'un jour ça allait s'arrêter. Enfin, tu vois, je suis tout le temps dans ce truc-là, je suis pas là en mode win. D'ailleurs, on m'a dit de l'être, parce qu'à la longue, ça allait m'attirer des ennuis. Donc maintenant, on m'a dit de demander à l'univers, de demander à la lune. Je fais des trucs un peu plus chelous qu'avant, un peu plus ésotériques, tu vois, pour me calmer et arrêter d'être dans des roues d'incertitude. Comme toi, j'imagine qu'à chaque lancement de production et de mise en vente, vous devez être dans les tapis, trans, quoi, tu vois.
Ah bon, on est en PLS, ouais.
En PLS, on est d'accord. Moi, je me tape des nuits, les yeux au plafond, et à la fois, je me dis, pour toutes ces fois où j'ai lu ce que c'était d'être entrepreneur, d'être à son compte et tout, ou toutes ces fois où j'en ai rêvé, tu vois, là, Adrien, on est dans mon petit studio et tout le nombre de fois où j'ai rêvé de ça, je savoure ma chance et je me dis, oh, ok, j'ai réussi. Alors, c'est pas tous les jours, j'ai pas une paye qui tombe tous les mois, je cotise pas encore pour ma retraite, ça va être sûrement compliqué. Oui, j'ai les yeux au plafond, plein de nuits. Oui, je stresse à en plus pouvoir, mais c'est génial, t'imagines? On produit notre propre contenu. Toi en vêtements et moi en contenu digital. Mais merci.
Oui, c'est un vrai kiff. Le jeu en vaut la chandelle.
Ouais, pour ceux qui ont la trempe et qui sont faits de ce bois-là.
Voilà.
Je ne critique pas du tout. Moi, je suis admirative des gens qui vont à la défense toute une vie. J'aurais été incapable de le faire. Et pourtant, peut-être que j'aurais gagné plus d'argent, ça m'aurait plus structuré. Mais en tout cas, voilà. Et se renouveler, je pense à... J'essaye, si tu veux, de trouver une espèce d'écosystème où dans tout ce que je fais, il y aurait ce fil rouge d'acceptation de soi et d'arrêter de surconsommer et de faire avec ce qu'on a. Donc là, ça passe par une masterclass. J'espère en faire en physique. Parfois, je me dis, est-ce que je lance une chaîne sur Twitch? Quand même, l'antenne, c'est ce que je sais faire de mieux. C'est ce qui me plaît sur Twitch ou ailleurs. Est-ce que ça vaut le coup? Je réfléchis. Ensuite, je suis très branchée faire durer sa garde-robe. Et pour faire durer sa garde-robe, je donne beaucoup de tips de rangement, d'accessoirisation, de soins. Donc, je réfléchis à des choses de ce côté-là, des box de rangement où il y aurait tout dedans. Alors, combien ça coûte? On est en train de réfléchir. J'essaye vraiment qu'à la fin, tout ça ait un sens, que ce soit pas un an comme ça, un feu de paille, un truc que j'ai lancé un peu foufou, ça a marché ce que ça a marché. J'essaye vraiment de voir la suite et d'essayer aujourd'hui d'être un peu le porte-drapeau, non pas de la mode éco-responsable, parce que je continue à conseiller du Zara, du H&M dans mes masterclass, parce que je suis obligée, parce qu'il y a des nanas qui n'ont pas les moyens de se payer autre chose, mais que j'essaye de le faire le plus sainement possible. Pas le porte-étendard de la mode éco-responsable, mais juste le porte-étendard d'être plus responsable vis-à-vis de la mode, soi-même. Tu vois, oui, pour acheter en fast fashion, mais par contre, tu gardes, tu le portes, t'es sûr que tu vas le porter. C'est pas du jetable qui va atterrir sur Vinted. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a toute une polémique, tout un questionnement autour de tout ce que tu trouves comme fast fashion pour Vinted. Le cercle, en fait, il est pas vertueux cette fois-ci. Tu vois, t'achètes vite fait, tu revends vite fait, on te rachète à 3 balles, tout ça n'a plus aucun sens, tu vois. Donc j'essaye vraiment, de redonner du sens à sa garde-robe et au-delà de ça, à sa propre vie, son propre rapport aux dépenses que ça nous procure. Tout ça, ça dit beaucoup de ce besoin de combler et donc d'un certain mal-être. Tu vois, c'est un peu plus profond
que des fringues.
Que des fringues.
Et dans un monde idéal, ça ressemblerait à quoi la galaxie Émilie dans 10-20 ans?
Attention, dans vraiment 20 ans. D'idéal, ça ressemblerait à une île, quelque part, très loin, à la plage, avec de l'eau turquoise et plus de fringues, un maillot, un pario, et on n'en parle plus. Ça, moi, c'est mon grand rêve.
Ouais. Tout bah avec le réchauffement climatique, on va peut-être y arriver.
Bah, écoute, finalement, je pourrais peut-être m'installer dans la Manche et je serais tout aussi contente. Ouais.
T'aurais envie de tout plaquer et de te barrer à l'autre bout de la planète ?
Oui, j'estime qu'au bout d'un moment, ça ira 5 minutes, Paris et compagnie, tu vois. Mm-hmm. Moi, j'aspire à vivre quand même au soleil. Alors, pas maintenant, je suis dans le cœur de l'action, là. Puis là, j'ai plein de projets, j'ai envie que ça marche, j'ai envie de faire plein de trucs chouettes et tout. Mais à terme, on en parlait en off quand tu es arrivé, on se pose, nous, les provinciaux arrivés à Paris, on se pose la question de quand est-ce qu'on va quitter ce Paris qu'on a tant idéalisé, tant aimé et qui nous le rend pas si bien ces dernières années, en tout cas. C'est peut-être pas sa faute, mais voilà. Et après, professionnellement, dans un monde idéal, j'aurais vraiment aimé avoir apporté ma pierre à l'édifice de l'acceptation, du self-esteem, d'aider, d'accompagner les femmes dans leur vie à travers les vêtements et la mode. Et voilà, encore une fois, sans parler de tendance ou quoi que ce soit, juste, on sait, comme tu disais, on s'habillera toujours, on dépensera toujours de l'argent, que ce soit quelques euros dans un top ou des centaines d'euros dans un manteau de luxe. Il faut quelqu'un à côté pour vous tenir la main et vous expliquer quoi en faire, comment le léguer. Je suis vachement aussi sur la transmission aux générations d'après, puisque j'ai des filles, puisque moi j'ai une grand-mère qui avait de belles choses et qui nous les a données. Redonner du sens en fait à tout ça. Parce que tu sais, tu peux acheter toutes les marques éco-responsables du monde, tu peux laver ton linge en le frottant sur une pierre d'Alain qui date du 14e siècle avant Jésus-Christ et compagnie. Si tu achètes trop et si tu sais pas comment porter ni à quelle occasion, bah, en fait, t'es con comme tout le monde, quoi.
Très bien, écoute, c'était les mots de la fin. Merci beaucoup Émilie. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés et que tu aurais voulu aborder?
Écoute, non, j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé quand
même. T'as beaucoup parlé, ouais, mais t'as bien parlé. Ouais. Et j'aime bien poser une question en fin d'épisode, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast?
Ah. Ah là là, punaise, attends, pas tu évident, me prends au dépourvu. Tu sais qui je souhaiterais, tu sais?
Non, vas-y.
J'adorerais que tu puisses interviewer Rihanna.
Rihanna, ouais. Gros challenge.
C'est pas mal, non?
Ouais, c'est pas mal. Tu la connais, hein, si tu veux une petite
mais
intro.
Évidemment, c'est une pinko. Je vais te filer son WhatsApp et puis tu vas nous la contacter. Non, c'est parce que je trouve que... Alors, je sais que toi, c'est vraiment autour de la mode et qu'elle, en plus, elle vient de perdre son partenaire... Enfin, son... Ouais, de sa marque Fenty n'existe plus. Mais en termes de se renouveler... Être là où on ne l'attend pas, ne surtout pas aller là où on l'attend, puisque tout le monde attend son album, etc. Sa marque de cosmétiques, l'inclusivité, le fait que ce soit une femme jeune, noire, avec une dose de masculinité. Enfin, j'adore cette fille, j'adore. Et je trouve que ouais, ça reste des bonnes sources d'inspiration. Alors après, excuse-moi, je ne t'ai pas dit un truc hyper chic, mais je trouverais.
Mireille
Dumas.
On t'embrasse, Mireille, si tu nous écoutes. Non, je sais pas, je crois pas qu'elle soit. Non.
Mais non, je rigole, je vais te montrer une photo d'elle, tu vas voir qui c'est.
Salut, Émilie.
Salut, Adrien.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcasts ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.